Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir à tous. J'attendais autre chose, Théo, c'est pour ça. Donc bonsoir à tous. Théo est en train de me faire des grimaces parce que j'ai laissé un blanc sur début de l'émission. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie, comme on peut l'entendre. Vous savez qu'au micro, on entend quand on sourit. Donc moi, je suis morte de rire à chaque fois que je viens, surtout quand je vois Théo qui s'exaspère sur la technique, parce que moi, j'y connais rien au niveau de la technique. Bonsoir Théo. Tu vas bien? Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
T'as vu, c'est pas la même intonation hein, quand on dit bonjour. Hein. Ouais. Voilà. Alors, juste un petit changement. On a fait un changement de formule sur l'émission. Alors ça c'est bien pour vous parce que vous allez pouvoir retrouver plus facilement dans les pods de Cast, les recettes, parce que en fin de compte, en réfléchissant bien, si l'émission se déroulait comme si on était en cuisine, vous étiez un petit peu perdu parfois. Et puis, si vous vouliez retrouver les recettes, c'était compliqué. Alors que là, on va mettre tout en place de façon à ce que chaque recette soit un petit peu indépendante et que vous allez pouvoir les retrouver différemment sur les podcasts. Donc, je vais faire la recette en une seule fois, sans changer de recette. Ça sera que la recette de l'entrée, du plat et du dessert. Et puis comme ça, ça vous permettra de retrouver tout ça. Et puis peut-être qu'un jour, vous ne voudrez que faire le plat principal ou que le dessert pour un goûter ou que l'entrée. Et dans ces cas-là, vous pourrez nous retrouver plus facilement. Voilà. Donc, je trouve que c'était bien de le dire, que de façon à ce que vous ne soyez pas surpris par rapport au changement un petit peu de l'émission. Hein, donc c'est une nouvelle année, automatiquement il y a un petit peu de changement. Voilà, alors on va commencer déjà par les ingrédients de nos recettes. Hein. Déjà, nos trois recettes, aujourd'hui nous allons faire le velouté de courgettes rondes. Donc évidemment il faut 4 courgettes rondes, donc là on est à la fin. Moi j'en ai encore dans mon jardin, mais on est vraiment à la fin. Si vous les avez qui sont dans votre jardin, vous pouvez les garder encore un ou deux mois, bien au frais. Alors pas au frigo, mais dans une pièce fraîche. Donc pour ce velouté, on a besoin de 4 courgettes rondes, une grosse courgette longue, 2 petits poireaux, 2 pommes de terre moyennes, un oignon jaune, une gousse d'ail, un cube de bouillon de légumes, 20 centilitres de crème entière, de l'huile d'olive, quelques feuilles de basilic, du poivre, du sel et du paprika. Et puis, pour les ingrédients, on va avoir besoin d'une cuillère à soupe, d'un couteau, d'un économe et d'un faitout et d'un mixeur. En ce qui concerne la bavette à l'échalote, donc là, une viande rouge, donc on vous a mis 4 steaks de 150 grammes, donc ça peut être de la bavette, de l'onglet ou encore de la poire. On vous expliquera la différence un petit peu plus tard dans l'émission. On va avoir besoin de 10 échalotes, d'une botte d'estragon, de sèche, frais. Si vous n'en avez pas, vous prendrez une cuillère à soupe d'estragon sec. Et puis, on va avoir besoin de 80 g de beurre, de 4 cuillères à soupe d'huile, de sel, du poivre, bien évidemment, des pommes de terre sautées ou des frites, selon votre choix. Ça, c'est les légumes. Ceux qui n'aiment pas les patates, il n'y en a pas beaucoup. Vous pourrez faire des haricots verts, c'est aussi bien, et on en a eu plein l'été. Pour les ingrédients, on aura besoin de pas grand-chose, puisqu'il nous faudra une poêle et un couteau. Voilà pour la bavette d'aloyau. La bavette d'aloyau à l'échalote. Et puis pour la tarte aux pommes et aux baies de sureau, vous allez voir, on va vous expliquer aussi dans l'émission ce que c'est la baie de sureau et où est-ce qu'on peut la trouver. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une pâte sablée prête à cuire. Hein, vous savez, les fameuses pâtes, puisque j'ai déjà, ou alors vous la faites vous-même, mais étant donné que j'ai déjà fait la pâte sablée, de, semble-t-il, dans une autre émission, je n'allais pas la remettre là. Et il nous faudra 400 g de baies de sureau, 40 g de poudre de noisette, de pommes, une cuillère à soupe de fécule de maïs, jaune d'œuf, 80 g de sucre, 2 cuillères à soupe de cassonade, 15 g de beurre, de la cannelle en poudre. Et côté ingrédients, on va avoir côté matériel, on va avoir besoin d'une passoire, d'un économe, d'un couteau, d'un saladier, d'une plaque allant au four, et puis du papier cuisson et une fourchette. Voilà pour les ingrédients. Alors avant de commencer la recette d'entrée, je pense que Nathalie, tu as quelque chose à nous dire, à nous raconter un petit peu sur l'ingrédient principal de notre recette d'entrée, qui est la courgette.
Oui, la courgette, donc, c'est une plante herbacée qui est de la famille des cucurbitacées. C'est pas évident à dire, mais bon. C'est aussi le fruit comestible de la plante du même nom. La courgette, c'est un fruit courant en été. La fleur de courgette est aussi utilisée en cuisine. Les différentes variétés de courgettes sont les cultivars de l'espèce Cucurbita pepo et de la sous-espèce Cucurbita pepo pepo, dont fait partie aussi la citrouille véritable. Donc, dans les pays francophones, on dénomme le fruit de cette plante par courgette car elle est plus allongée et plus petite qu'une courge. Elle est cueillie très jeune, bien avant sa maturité, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, au Canada. Elle se nomme également zucchini. Comme l'acteur, zucchini, je pense. Substantif masculin emprunté à l'anglais nord-américain et venant de l'italien. Oui, c'est plutôt italien. Dans d'autres pays anglophones, elle est nommée courgette ou baby marrow. La courgette, comme toutes les cucurbita, est originaire des Amériques. Des sélections successives ont abouti au XVIIIe siècle en Italie à la courgette. Elle appartient, donc la courgette appartient à la famille des cucurbitacées, comme j'ai dit. Plus haut, c'est une plante potagère qui pousse au sol. Elle possède de grandes feuilles. Elle a des fleurs de couleur jaune qui donnent le fruit appelé également courgette et on la cultive en potager ou en serre selon le mode de production.
Ouais, ça pousse très très bien. Merci Nathalie. Oui, ça pousse extrêmement bien. Et effectivement, il y aura peut-être un jour où on fera des beignets de fleurs de courgette. Alors, justement, on revient sur ce velouté de courgettes. Donc, pour ça, il vous faudra prévoir une préparation de 15 minutes et une cuisson de 15 minutes. Donc, en une demi-heure, vous pouvez avoir fait votre velouté. Alors, nous allons commencer par couper un chapeau sur la courgette ronde. Donc, les quatre courgettes rondes, on les coupe avec la queue, ça fait un petit peu joli. Et puis, on va les évider. Alors, pour ça, vous prenez pas la tête, hein, parce qu'il y en a qui prennent des cuillères parisiennes. C'est une cuillère qui est un petit peu hachurée, enfin, un petit peu coupante. Moi, je m'embête pas, je prends une petite cuillère à café. Et puis, je vais aller gratter et on va conserver uniquement la peau. Donc, vous faites attention de bien aller, d'atteindre la peau, mais de ne pas aller au-delà, puisque c'est ce qu'on va s'en servir pour servir la soupe à l'intérieur, pour servir le velouté à l'intérieur. Et puis, on va réserver ce qu'on a enlevé, donc la chair de ces courgettes rondes, on va la réserver pour pouvoir en faire le velouté. Et puis, on va couper aussi l'autre courgette en petits morceaux. Ça sera plus simple. Et puis, on va enlever le poireau. On va le nettoyer. On va lui enlever sa racine. Et puis, on va la couper. On va le couper en petits morceaux aussi. On va éplucher les pommes de terre. Et on va laver tout ça. Donc, la courgette, le poireau, la pomme de terre. Et puis, on va aussi éplucher l'oignon, l'ail. Et tout ça, on va les couper en petits morceaux, de façon que ça cuise beaucoup plus vite. Donc on va couper en dés la pomme de terre, la courgette, on va émincer l'oignon et les, et l'ail. Et puis la courgette longue, on va la couper aussi en petits dés. Alors c'est pas en petits, tout petits dés, hein, voilà, on va dire 4-5 cm, ça suffit. Et puis tout ça, on va le mettre dans une poêle avec un filet d'huile. Et on va faire chauffer dans cette poêle tous ces ingrédients. Alors, comment on fait ? Donc, c'est simple. On va faire chauffer le filet d'huile. Et une fois qu'il sera très, 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 très chaud, on va y ajouter les petits légumes émincés. Donc, les légumes, c'est-à-dire les pommes de terre, les courgettes, tout ce que vous avez mis. Et puis, même la chair de courgette ronde. Donc, les pommes de terre, on a dit. Les pommes de terre, les oignons, les courgettes, l'ail. Et tout ça, on va la mettre un petit peu à rissoler. Et une fois que c'est un peu rissolé, on va mettre ça dans un gros faitout. Et puis, on va couvrir d'eau. Donc, pour une praticité, vous pouvez utiliser votre faitout s'il est avec du téflon, hein, de façon à ce que ça n'accroche pas, que les légumes n'accrochent pas. Comme ça, c'est plus facile. Vous couvrez, une fois que tous vos légumes sont dans le faitout et ils ont un petit peu commencé un petit peu à prendre de la couleur, eh bien, vous allez couvrir à la hauteur des légumes d'eau. Donc, pas besoin d'eau bouillante, rien du tout. Ça va cuire tout doucement dans de l'eau froide. Ça suffit amplement. Et vous allez y ajouter le bouillon de légumes. Et puis, bien évidemment, vous allez saler. Alors, je n'ai pas dit poivrer. Ça, on le fera qu'à la fin, s'il y a besoin. Parce qu'il y a certains... La courgette peut ramener de l'amertume. Et si vous poivrez, ça va encore plus rajouter. Donc, vous salez selon votre goût. Et puis, vous allez cuire 20 minutes. Environ, hein, donc à peu près, ça dépend de la grosseur de vos petits légumes. Et une fois au bout des 20 minutes que ça a bien bouilli, alors on parle de cuisson à partir du moment où ça commence à bouillir. Hein, c'est pas je mets de l'eau froide, je compte 20 minutes, c'est je mets mes légumes, je mets l'eau froide et je mets, j'attends que ça bouille et au bout de 20 minutes, une fois que ça boue, on compte 20 minutes. Et puis, une fois que les 20 minutes sont passées, votre soupe, elle est cuite, ça suffit. Ça ne sert à rien de la faire bouillir plus longtemps. Et bien, on va mixer tout ça. Et puis, avant de mixer, on va rajouter la crème fraîche. Et c'est ça, en fin de compte, le velouté. C'est qu'une soupe, c'est que de légumes. Et du velouté, on a rajouté du fromage ou de la crème. Voilà, tout simplement. Donc, on va mixer les légumes, l'eau et la crème fraîche. Et on va faire chauffer tout doucement, en remuant, pour bien délayer la crème fraîche. Et puis, pour la cuire légèrement. Hein, donc, ça ne doit plus bouillir à ce niveau-là. Et une fois terminé, vous allez verser votre velouté dans les courgettes rondes. Et alors, pour le décor, moi, je vous conseille vous remettez un petit peu le chapeau par-dessus et vous mettez une petite pointe de paprika doux et puis des feuilles de basilic. Et là, vous poivrez. Donc, ça va faire un mélange de orange dans du vert. Ça va faire un mélange de orange, vert foncé, et puis un petit peu de poivre, ça va faire un petit peu gris. Et là, vous servez ça aussitôt chaud, c'est super bon. Moi, j'en ai les papilles qui bavent, on va dire. Vraiment, c'est extrêmement bon, et vous avez un décor d'enfer. Voilà, écoutez, déjà une belle recette. Vous voyez, c'est simple et c'est pas compliqué. Il nous faut 30 minutes pour faire une soupe. Voilà, c'est pour faire un velouté. Et puis, en plus, ça cuit tout seul. La seule chose, c'est qu'il faut éplucher les légumes. Voilà, écoutez, je vous propose tout à l'heure qu'on se retrouve dans pas longtemps. On se fait une petite pause de pub et on vous parlera tout à l'heure d'un ingrédient qui est le paprika, puisqu'on l'a utilisé et qu'on l'utilisera encore de nouveau dans certaines autres recettes. A tout de suite.
Parc Babyland à Miland, 34 attractions. La nouveauté 2022, une expérience unique. Bonjour professeur.
Ici le professeur W, je vous invite à monter à bord de ma nouvelle création, le Pteranodon.
Le professeur W, créateur de dinosaures, vous invite dans son laboratoire pour découvrir sa toute nouvelle invention. Une attraction familiale vous permettant de vous envoler à plus de 30 mètres de haut, tel un véritable ptérodactyle.
Parcbabyland.fr.
Le royaume des enfants et de la famille.
Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Bien, et bien écoutez, nous revoici. Donc tout à l'heure, avant la pause, je vous parlais d'un ingrédient qui est peu connu, qui est le paprika, et qu'on, moi j'utilise assez souvent dans la cuisine. Et je pense que Nathalie, tu as peut-être quelque chose à nous dire sur justement cet ingrédient-là.
Oui, le paprika. Alors je crois que j'ai pas de son, Théo. Je ne m'entends pas. Vous m'entendez ?
Oui, oui.
Parfait. Le paprika, donc, c'est aussi connu sous les termes de piment doux, pimenton. Alors, je n'ai pas un accent espagnol phénoménal, mais en Espagne, c'est une épice en poudre de couleur rouge obtenue à partir du fruit mûr, séché et moulu du piment doux ou poivron, Capsicum annuum, de la famille des Solanaceae.
À vos souhaits. À vos souhaits.
L'épice est utilisée en cuisine pour sa saveur âcre, légèrement piquante et sa couleur rouge. Le piment doux est, comme toutes les variétés de piment originaires d'Amérique du Sud et centrale, où il est cultivé à partir de 7000 avant Jésus-Christ. Les Aztèques et les Mayas l'utilisaient comme épice, comme le prouvent les fouilles archéologiques, mais aussi comme plante médicinale et comme monnaie. Les Indiens d'Amérique employaient son fruit pour apaiser les douleurs dentaires et l'arthrose. Il est introduit en Europe au début de la colonisation espagnole. En une centaine d'années, sa culture prend un tel essor en Espagne qu'il est rapidement connu dans le continent européen sous le nom de piment d'Espagne. Les espèces les plus douces, los pimientos, les poivrons, que tout le monde connaît, trouvent une première terre d'élection en Espagne. La première notification de production de paprika de la province de Cáceres date de la fin du XVe siècle. Ce sont les frères Jeronimos du monastère de Guadalupe peut-être, qui l'entendent via les moines hiéronymiques, je ne suis pas gâtée, hein, au monastère de Yust. Le monastère se déplace à Murcia. Deux régions alors produisent de façon importante le pimentón, la région de Vera à Sahares et les jardins de Murcie, sachant que le paprika, alors produit dans chaque lieu, ont une saveur différente, utilisant des systèmes de déshydratation différents. Au début du XVIIIe siècle, il se popularise et remplace maintenant le poivre, devenu trop cher pour les pauvres et les riches. Les conditions de culture très favorables en Hongrie firent rapidement la qualité de ces paprikas. Le paprika fait alors son apparition dans les livres de cuisine de l'époque, mais son usage se développe aussi pour une utilisation médicale grâce à ses vertus pour la santé et en particulier en médecine préventive lors de l'épidémie de choléra de 1831. Au XIXe siècle, l'usage du paprika séché et pulvérisé s'y répand, là aussi en raison de la cherté des autres épices, notamment du poivre et tout particulièrement après le blocus continental qui entraîna la pénurie des produits dont faisaient commerce les Anglais comme le poivre. Le paprika devient alors le poivre du pauvre. Légèrement relevé, il est utilisé comme condiment par toutes les couches de la population hongroise. Certains cuisiniers comme Auguste Escoffier, que tout le monde connaît, grand chef de cuisine dans un restaurant de Monte-Carlo, utilisent déjà le piment de Szeged comme nouvelle épice hongroise. À la fin du 19e siècle, je m'entends plus. À la fin du 19e siècle, la poudre de paprika est l'épice nationale et bénéficie d'une renommée mondiale. En 1934, afin de protéger ces appellations, paprika de Kaloska et paprika de Szeged, deux décrets royaux hongrois réglementent précisément l'aire des deux zones géographiques de production principale et par leur nationalisation permet de considérer ces deux paprikas, donc Kaloska et Szeged, comme des biens nationaux. Démarre alors la production industrielle où les coopératives fonctionnent sur le principe des modèles de kolkhoz soviétique. La culture du paprika a été introduite avec succès en Afrique, au Zimbabwe, en Zambie, en 1996.
Eh ben, dis donc.
Toute une histoire.
C'est toute une histoire. Et donc, le paprika, vous voyez, c'est une épice, en fin de compte, qui est peu utilisée en cuisine, peu connue de nos jours. Mais pourtant, on en a utilisé énormément. À la place du poivre.
À la place du poivre, c'est ça.
Donc, si un jour vous n'avez plus de poivre, utilisez du paprika. Voilà. Bien, merci beaucoup, Nathalie, pour cette tranche d'histoire qui a été coupée, d'ailleurs. Moi, je ne vais pas foutre le souk, mais ça a été...
Je ne m'entendais plus un moment.
Je ne t'entendais plus non plus. on ne va pas la refaire, parce qu'on est en direct. Bon, voilà. Donc, vous voyez que c'est une bonne humeur, cette émission. Continuer par le plat principal, c'est la bavette à l'échalote. Pour ça, vous aurez, il n'y a pas besoin de grandes heures pour préparer, puisqu'on a besoin de 10 minutes de préparation et puis de 15 minutes de grosso modo de cuisson. Alors, si vous faites des légumes, évidemment, les frites et pommes de terre sautées ou même des haricots à l'eau, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais pas tant que ça. Alors, moi, je vous recommande de sortir quand même la viande, quelle qu'elle soit, quand c'est de la viande rouge comme ça, il faut la sortir 30 minutes avant de la cuisiner. Et puis, pendant qu'elle prend l'air, on va dire, on va effeuiller l'estragon. Donc, si vous avez de l'estragon frais, c'est bien de l'effeuiller. Si c'est sec, vous n'oubliez pas de bien le garder. Alors, il faut savoir que l'estragon, on va arriver sur la fin de l'estragon frais. Ce que vous pouvez faire, c'est aller le récolter dans les jardins et puis le faire sécher, donc la tête en bas, au bout d'une ficelle. Vous allez voir, ça marche super bien. Donc, on va effeuiller donc notre estragon. On va peler et émincer notre échalote, donc c'est l'éplucher, le peler. Et dans une poêle, on va faire chauffer le beurre. Et puis, dès que le beurre mousse un petit peu, vous savez, ça fait des petites bulles, mais ça ne brûle pas, on est bien d'accord. Donc, tout ça à feu vif, parce qu'une viande, ça cuit à feu vif. Mais pour les échalotes, c'est à feu doux. Donc, ne vous trompez pas. Donc, à feu, on voit que le beurre mousse un petit peu dans la poêle. On va y ajouter donc, les échalotes qui ont été émincées et épelées. Et puis, on va les faire colorer tout ça à feu doux, tranquille, pendant 10 minutes. Une fois que les 10 minutes sont passées, qu'elles ont un petit peu roussi, un petit peu pris de la couleur, un petit peu devenue un petit peu transparente, comme on dit, on va saler et poivrer et puis on va garder au chaud. Et puis on va pouvoir y rajouter, donc hors du feu, on va y rajouter de l'estragon et puis on va mélanger. Et on va couvrir. Donc, si vous avez une poêle ou vous avez un couvercle pour la poêle, c'est formidable. Ça va vous permettre de garder un petit peu au chaud. Si vous n'avez pas, c'est pas assez chaud au moment de servir, vous referez un petit peu chauffer légèrement à feu doux. Maintenant, les échalotes, vous pouvez les préparer un petit peu à l'avance avec l'estragon. Par contre, la viande, c'est la cuisson, c'est tout de suite, quoi. C'est au moment où on va la manger. On la cuit pas pour la resservir.
Non, c'est minutes.
C'est minutes. On est bien d'accord. C'est comme un steak. On la met pas de côté pour la faire réchauffer après. Donc là, par contre, pour la viande, on va dans une poêle faire chauffer donc un petit filet d'huile. Alors c'est où vous mettez de l'huile d'olive, où vous mettez du beurre, c'est comme vous voulez. Moi, bon, il y a des gens qui adorent le beurre un petit peu roussi sur la viande. Il y en a d'autres qui aiment bien l'huile d'olive. Moi, perso, c'est de l'huile d'olive. Je fais attention à ma ligne, on va dire. C'est surtout au cholestérol. Voilà. Qui est une vraie saloperie en soi. Et on va saisir rapidement. Donc là, on est dans du feu vif. Et on va saisir rapidement des deux côtés. Ça dépend du goût de votre perso. Il y en a qui aiment bien bleu, donc ça sera 2 minutes de chaque côté à peine. Il y en a qui aiment bien saignante, ça sera plus longtemps. À point, encore plus longtemps. Et puis bien cuit, ça sera de la semelle. Enfin bon, moi la viande bien cuite, moi j'ai du mal.
Surtout de la bonne viande.
Surtout de la bonne viande. La bonne viande, c'est pour moi, c'est compliqué.
Moi, c'est bien.
Voilà. Écoute, moi, c'est bleu, voire saignant, tu vois. C'est vraiment. Mais voilà. Maintenant, toutes les cuissons sont bonnes. Ça dépend encore une fois
de vos goûts.
C'est
vraiment les goûts de chacun. Ouais.
Vous allez laisser poser votre viande avant de la servir. Vous allez la laisser poser 2 minutes. Pourquoi ? Parce qu'elle va, tout sortir son jus et vous allez la saler, la poivrer. Donc, elle va prendre la pièce de bœuf, elle va prendre tout son corps là. Ça ne sert à rien de la servir tout aussi sec. 2-3 minutes, on la laisse 2-3 minutes poser et on la sert. Et par-dessus, avant de la servir, évidemment, on va y mettre les échalotes et notre mélange échalotes et estragon. Voilà, donc vous voyez, c'est relativement simple. On sert sur une assiette chaude pour éviter que la viande refroidisse. Donc vous la trempez dans l'eau bouillante, par exemple, vous la passez à l'eau chaude, votre assiette. Vous l'essuyez bien, vous présentez votre assiette ou vous la servez directement dans la poêle. Ça peut être sympa aussi, ça reste familial. Un conseil pour terminer cette recette facile et puis très simple. Donc, accompagnez votre pièce de bœuf, hein, donc bavette, onglet ou poire, avec des pommes de terre sautées, c'est ce qui va bien. La semaine dernière, on avait parlé du beurre maître d'hôtel. Vous pouvez juste avec un beurre de maître d'hôtel, ça peut être aussi sympa. Une persillade de pommes de terre et des frites ou encore ce que je vous disais, des haricots. Voilà, tout simplement à l'eau, ça peut être bien. Et puis, si vous voulez que ça soit un petit peu plus festif, eh ben, l'estragon, vous l'enlevez de la recette et vous allez mettre des petits dés de foie gras à disposer, donc bien froid, sur les échalotes et la viande. Et vous allez le servir. Voilà.
Un peu
et
comme ça, un tourne-dos Rossini.
Tout à fait. Mais je vous rappelle que on sert le foie gras, il faut qu'il soit vraiment froid. Donc le mieux, c'est que les petits dés de foie gras, vous les coupez, vous les mettez bien au froid, vous mettez votre viande, votre échalote, et au dernier moment, vous mettez le foie gras. Et vous allez voir, c'est un délice.
Okay.
Voilà. Bon, alors ça, c'est pour les grandes fêtes. Hein,
ouais.
Mais on va vite y arriver. Hein. Alors, Nathalie, tu peux nous parler un petit peu de boucherie cette fois-ci, parce que moi, je connais les pièces de viande quand j'achète ma viande, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur la poire, qui n'est pas un fruit, là, pour le fait, la bavette, l'onglet de bœuf,
alors,
ou encore le merlan,
oui,
qui n'est pas un poisson,
là, dans ce cas-là. Donc, la poire, merlan, la tente de tranche est située sur la partie interne de la cuisse. Alors, vous visualisez une vache et la partie interne de la cuisse, c'est la poire et le merlan. Elle est composée de 6 muscles, dont la poire et le merlan. La poire est une partie qui se situe dans l'arrière-train du bœuf, donc dans les fesses, au-dessus de l'araignée. Alors, l'araignée, ce n'est pas l'insecte. C'est aussi une pièce de bœuf. Le merlan est long et plat et utilisé pour les beefsteaks. En raison de la tendreté supérieure et exceptionnelle de cette pièce, la poire de bœuf est souvent réservée auprès des bouchers pour la fondue bourguignonne. Pour un nombre important de convives, cette pièce étant rare, le boucher proposera d'y associer des morceaux d'araignée de bœuf. L'onglet, lui, se situe sur le ventre de l'animal, sous le faux filet et le filet de bœuf. Cet unique morceau correspond au diaphragme de la bête. Peu connu, car rarement commercialisé en grande surface, il fait partie des morceaux de boucher. Ces morceaux à la fois rares et petits sont difficiles à détailler pour le boucher, comme le cœur, le foie ou encore la queue de bœuf. L'onglet est un abat. Je ne savais pas, tiens. Très recherché par les amateurs de gastronomie, ils sont réputés pour être tendres et savoureux. Il y a deux sortes de bavettes. La bavette d'aloyo est un morceau de ventre bas, long et filandreux. Elle est généralement cuisinée à la poêle. Et la bavette de flanchet, celle-ci se situe sur le ventre milieu. Sa chair est aussi longue et filandreuse. La cuisson se réalise aussi principalement à la poêle.
Merci Nathalie. Ben écoute, tu as éclairé nos lanternes.
Oui, j'ai éclairé les miennes.
Je pense que c'est important de savoir ce que l'on mange, parce que bien souvent, quand on vous demande de la viande à fondue, vous avez bien compris que normalement, c'est la poire pour la viande à fondue, et en aucun cas, on vous vend de la poire.
Bah non.
On vous vend de la viande à fondue.
Exactement. Voilà.
Donc, ouais. Si un jour vous avez un très bon boucher, demandez-lui de la poire, du merlan. Il ne vous rira pas au nez et il comprendra exactement ce que vous voulez. Mais à mon avis, ça sera plus sur commande. Bien. Écoutez, on va continuer. Écoutez, on va faire une petite pause.
Oui.
Et puis, je vous parle tout de suite après du dessert déjà.
Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé. Je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore. les bons moments. T'as marché, t'as couru, c'est bien, mais allonge-toi maintenant. Raconte, analyse tes histoires, ça évite les pansements. Et je me dirai à moi-même, tu vois, fais-toi confiance. Que tant qu'on a ce qu'on aime, on a déjà de la chance. Et je vole encore.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Bien, ben nous revoici. Donc on a fait notre velouté de courgettes, notre bavette d'aloyau. Nathalie venait de nous expliquer ce qu'était la différence entre une bavette, un onglet, une poire, un merlan. On serait cru dans une épicerie, mais on n'était que sur le bœuf. Voilà. Et ben on va continuer sur notre belle tarte, notre dessert qui va être une belle tarte aux pommes et aux baies de sureau. Ça c'est quelque chose que vous aurez peut-être du mal à trouver, mais quand vous en trouvez, vraiment prenez-le parce que c'est vraiment un mets exceptionnel. Voilà, donc pour ça il vous faudra 20 minutes de préparation et puis 30 minutes de cuisson. Allez, c'est parti. On commence déjà par éliminer au niveau des baies. Bien souvent, les baies de sureau sont que noires. Hein, donc, on élimine les vertes et les rouges. Ça ne sert à rien. Donc là, il faut un petit peu de patience parce que bien souvent, elles ne mûrissent pas tous en même temps. Et on va garder que les noires. On va les laver délicatement dans une passoire. Ça, c'est important pour éviter que le fruit soit trop abîmé. Et puis on va les laisser sécher.
C'est dur à dire. Hein.
C'est comme l'archiduchesse. C'est exactement la même. Et puis on va peler les pommes. Et puis on va enlever les pépins, bien évidemment, et on va les couper en lamelles. Alors, les lamelles de 5 centimètres, on va dire 1 centimètre. Voilà, comme ça au moins, des grosses lamelles.
Ah oui, des grosses lamelles, comme du tatin, presque, c'est ça ?
Non, le tatin c'est beaucoup plus...
C'est plus gros ?
C'est plus gros. Là, c'est juste pour parsemer la tarte. Vous allez voir, c'est une tarte qui est relativement simple à faire. Mais ça sert de déco. Faut pas que ça soit bien rangé comme une tarte aux pommes chez le pâtissier. Ça sert strictement à rien. On va préchauffer notre four. Hein, une fois qu'on a coupé nos pommes et rincé nos baies de sureau, on va préchauffer notre four à 180 degrés, donc c'est-à-dire thermostat 6. Et puis dans un saladier, on va mélanger les baies de sureau qui sont sèches. Et puis on va les mélanger avec une cuillère à soupe de fécule de maïs et le sucre. Donc si elle commence à être un peu juteuse, ça tombe parfaitement bien. Vous allez dérouler votre pâte à sablée et sur une plaque. Alors là, on n'utilise pas de moule. C'est ça l'avantage de cette tarte, c'est qu'on n'a pas de moule. Donc par contre, on va recouvrir notre plaque de cuisson par un papier cuisson. Et puis on va piquer notre pâte avec une fourchette, hein, tout simplement. Et puis on va saupoudrer cette pâte de poudre de noisette en gardant 5 cm tout autour. Hein, donc au bord, de façon à pouvoir après les rabattre. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. On va répartir le mélange qu'on a fait avec les baies de sureau et puis la fécule de maïs et le sucre. Et puis, on va disposer comme ça, un petit peu en vrac, nos lamelles de pommes. Et vous allez saupoudrer de 2 cuillères à soupe de cassonade. Alors, vous pouvez prendre la cassonade, ce qu'on appelle de la cassonade, qui est du sucre roux. Hein, la vraie cassonade, je rappelle, hein, celle du Nord, c'est ce que les grandes surfaces appellent de la verre. Vergeoise, et qui est beaucoup plus dense. Donc ça, après, c'est votre choix. Moi, je préfère ma cassonade du Nord qui est dense et compacte, parce qu'elle a un parfum un petit peu boisé et un petit peu de brûlé que j'aime beaucoup. Et puis pour ceux qui veulent, eh ben, une fois que vous avez fait vos deux cuillères à soupe de cassonade, ben vous mettez une pincée de cannelle. Alors, gentiment, parce que tout le monde n'aime pas la cannelle.
C'est fort.
C'est assez fort. C'est pour ça que vraiment, je mets vraiment un petit peu, donc vraiment une pincée. Et puis, si vous souhaitez, vous parsemez votre plat de petits morceaux de beurre. Donc, ça va être encore meilleur et ça va sentir bon dans la cuisine. Et puis, vous allez replier les bords. Vous savez, vos 5 cm qu'on a gardés, ben, vous les rabattez et vous allez les badigeonner. Donc, avec un petit pinceau, un petit pinceau, c'est mieux, de cuisine. Vous en avez maintenant en silicone, hein, qui sont très, très bien, de jaune d'œuf. Donc, je vous rappelle, le jaune d'œuf, il doit être battu. Et je vous rappelle, attention, hein, on garde toujours le blanc. Donc, vous pourrez l'utiliser plus tard pour une meringue. Voilà, votre tarte est prête à être enfournée et elle va être enfournée pendant 30 minutes. Voilà, donc vous voyez encore une recette vraiment facile. C'est uniquement la cuisson qui est un peu longue. Alors, par contre, vous faites attention parce qu'on est dans la pâte sablée et ça dépend des fours. Mais 30 minutes, c'est grand maximum. Vous surveillez parce que votre pâte sablée doit être croustillante, mais pas marron. Hein, elle doit être. C'est mieux de la laisser un petit peu. Elle va devenir jaune, un petit peu plus jaune, jaune foncé et légèrement doré. Et là, vous l'enlevez, hein, parce que si c'est trop cuit, ça va être craquant et ça va pas être bon.
Ouais.
Voilà. Donc après, c'est suivant votre goût. Nathalie, tu as peut-être quelque chose de nous dire parce que ces baies de sureau, elles sont très très intéressantes, aussi bien au niveau du goût, au niveau de la cuisine, mais au niveau médical.
Oui. La baie de sureau, c'est l'une des plantes médicinales les plus utilisées au monde. Traditionnellement, les Amérindiens l'utilisaient pour traiter les infections, tandis que les Égyptiens l'utilisaient pour améliorer leur teint et guérir les brûlures. J'ai du mal ce soir. Il est encore utilisé dans la médecine populaire dans de nombreuses régions d'Europe. Aujourd'hui, le sureau est le plus souvent utilisé comme complément pour traiter les symptômes du rhume ou de la grippe. C'est vrai qu'on en trouve dans les pastilles. Cependant, les baies crues, l'écorce et les feuilles de la plante sont également connues pour être toxiques et causer des problèmes d'estomac. La baie de sureau désigne plusieurs variétés de l'arbre sambucus, une plante à fleurs appartenant à la famille des Adoxacées. Le type le plus commun est le sambucus nigra, qui est le sureau noir, également connu sous le nom de grand sureau. Cet arbre est originaire d'Europe, bien qu'il soit largement cultivé dans de nombreuses autres régions du monde. Le sureau noir peut atteindre 9 mètres de hauteur et possède des grappes de petites fleurs de couleur blanche ou crème appelées fleurs de sureau. Les baies se trouvent dans de petites grappes noires ou bleues noires. Les baies sont plutôt acidulées et doivent être cuites pour être consommées. Les fleurs ont un arôme de muscat délicat et peuvent être consommées crues ou cuites. Divers parties des bêtes sur eau ont été utilisées tout au long de l'histoire à des fins médicinales et culinaires. Historiquement, les fleurs et les feuilles ont été utilisées pour le soulagement de la douleur, l'enflure, l'inflammation, pour stimuler la production d'urine pour induire la transpiration. L'écorce étant utilisée comme diurétique, laxatif et pour provoquer des vomissements. Bon appétit. Dans la médecine traditionnelle, les baies et ou jus séchés sont utilisés pour traiter la grippe, les infections, la sciatique, les maux de tête, les douleurs dentaires, les douleurs cardiaques, les douleurs nerveuses, et ainsi que les laxatifs et les diurétiques. En outre, les baies peuvent être cuites et utilisées pour faire du jus, des confitures, des chutneys, des tartes, comme on le voit là, et du vin de sureau. Les fleurs sont souvent bouillies avec du sucre pour faire un sirop sucré ou infusé dans le thé. Elles peuvent également être consommées frais dans des salades.
Bien, merci. Donc, tu vois, c'est ce sureau. Alors, si vous allez vous balader dans la forêt de Rougeau,
oui,
il y en a.
Et comment les reconnaître et pas... C'est ça. Parce que sinon, on peut en trouver où ? Sur les marchés ou...
Alors, sur les marchés, vous pouvez demander à votre marchand de légumes. Ouais. Parce qu'eux, ils se fournissent à Rungis, donc ils en trouvent. Sinon, c'est directement sur Rungis. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir des...
T'as des bonnes adresses.
Des gens qui m'amènent du sureau comme ça. Et bon, il ne m'en faut pas beaucoup. Comme c'est 400 grammes, je n'en demande pas beaucoup. Mais une fois de temps en temps, ça fait super... Puis, j'ose même pas faire de la confiture avec ça parce que c'est vraiment quelque chose de précieux, le sureau.
Mais alors, s'il y en a dans la forêt de Rougeau, c'est ça ?
Eh bien, allez chercher, chasse au trésor.
Et avec un livre, on voit à quoi ça ressemble. Et on peut peut-être, comme pour les champignons, aller dans une pharmacie alors, pour demander si c'est vraiment du sureau.
C'est ce que j'allais dire. Voilà, vous allez dans les pharmacies parce que vous avez bien compris qu'il y a différentes sortes de sureau.
Ouais.
Et que vraiment, c'est des toutes petites baies. Enfin, ça fait des petites grappes. Voilà, c'est je peux pas vous en dire plus. C'est difficile à la radio d'expliquer un petit peu les choses, mais vous regardez sur internet, vous allez voir le sureau, le grand sureau. Vous allez voir, et c'est une très très c'est une très jolie photo et c'est un très bel arbre. Voilà, mais écoutez, j'avais envie de vous faire une pause musicale, mais j'ai aussi envie de vous donner un bonus.
Oui.
Ce soir. Donc, on ne va pas faire de pause musicale, on va faire un bonus. Alors, ce bonus, je vais vous le dévoiler dans deux secondes, mais je vais d'abord vous raconter une histoire qui m'est arrivée cet été.
Ah.
Et qui m'a un peu gonflé, c'est pour ça que m'en est venu mon bonus, que j'ai testé. Quand on fait de la vinaigrette, on met des ingrédients dedans. On met le vinaigre, l'huile et la moutarde. Mmh. Et plusieurs fois, j'ai voulu... j'utilise de la vinaigrette à la maison, pour mes salades. Je voulais faire de la tarte aux tomates.
Oui, on met de la moutarde.
Je mets de la moutarde au fond. Je ne pouvais pas parce que je n'avais plus de moutarde. Encore une fois, je voulais faire un bon lapin à la moutarde. Je n'ai pas pu parce que on est tombé dans une pénurie de moutarde. Bon,
ouais, c'est vrai.
Ou alors dès qu'ils en mettaient en magasin, il y en a qui prenaient 3 pots, 5 pots pour l'année certainement. Bon, bref. Donc j'en ai eu un petit peu marre et j'ai regardé, je me suis documenté sur la façon de faire de la moutarde. Parce que je m'arrachais les cheveux. Franchement, je m'arrachais les cheveux parce que j'ai fait 400 magasins. Impossible, même une épicerie fine n'avait plus de moutarde. Si, ils me proposaient la moutarde à l'estragon, les trucs qui coûtent un bras. Et puis, sur Internet, l'achat de moutarde, ça coûtait aussi un bras parce que les gens en ont profité. Donc, je me suis dit, je vais faire de la moutarde maison. Je me suis amusée à me faire de la moutarde maison. Et je vous confie ce soir la recette. Donc pour ça, il vous faudra 50 grammes de graines de moutarde. Alors ça se trouve dans toutes les épiceries. Vous pouvez même trouver en grande surface des graines de moutarde. Donc les graines de moutarde, elles peuvent être brunes ou jaunes. 25 centilitres de vinaigre de cidre, 15 centilitres d'eau, 15 grammes de sel, une cuillère à café de curcuma. Donc ça, c'est dans nos placards, on trouve facilement. Allez, c'est parti. Dans un premier temps,
Attends, je te coupe.
Oui.
Théo me dit, non, il faut faire une pause. Donc je pense qu'on a donné les ingrédients, on va faire une petite pause musicale et tout de suite après, on va lancer la recette.
D'accord, bon, bah comme ça, si Théo décide, c'est lui le chef après tout.
Hein. C'est lui le chef. Producteur.
À tout de suite.
J'ai passé toute la night à compter mon oseille. Je t'emmènerai n'importe où cette life m'amène. J'ai teasé toute la tête, je crois que je touche le ciel. Je suis fade up now. J'ai passé toute la night à compter mon oseille. Je t'emmènerai n'importe où cette life m'amène. J'ai teasé toute la tête, je crois que je touche le ciel. Je suis fade up now.
C'est qu'on n'est pas vraiment tout seul. Je t'ai pas menti quand je t'ai écrit ce message. Te dire I love you sans wesh. Mais je suis au carré, on a plein d'autres qui sont fraîches. Parking, dans la night, c'est claqué. My, je fais seul ma zik, my. On passe en caisse, on drive-by. Parking, dans la night, c'est claqué. My, changer mon bris sans palma. Je me casse moi, je vous dis bye-bye.
J'ai passé toute la night à compter mon oseille. Je t'emmènerai n'importe où cette life m'amène. J'ai teasé toute la tête, je crois que je touche le ciel. J'suis fade up now. Si tu te sens toute seule, je pourrais te regarder danser tout un night. Si t'es dans le cœur, il faut que je pape une autre tête. Je me sens encore un peu plus en apesanteur. J'ai toute la night, j'ai hâte de dire I love you, I love you. Et tu le sais, ma vie. Et tu sais tout ce que je ferai, tu sais tout ce que je ferai. J'ai passé toute la night à compter mon oseille. Je t'emmènerai n'importe où cette life m'amène. J'ai teasé toute la tête, je crois que je touche le ciel. J'suis fade up now.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Bien, donc après cette pause musicale, nous revoici. Donc je vous avais dit les ingrédients, je ne les répète pas, vous les retrouverez facilement. Je pense peut-être qu'on les mettra sur Facebook aussi pour ceux qui veulent. Voilà, alors on va verser l'eau dans un bol. Et on va y ajouter 15 grammes de sel, Et puis, on va laisser dissoudre les 15 grammes. Alors, c'est important de laisser dissoudre ces 15 grammes de sel. Il faut vraiment que votre saumure, parce que l'eau et le sel, c'est un peu de la saumure, soit bien mélangée. On va y ajouter 50 grammes de graines de moutarde dedans. Et on va laisser poser. Alors, moi, j'aime bien mettre ça, pas dans un bol, mais dans un gros bocal, style parfait, hein, pour ne pas faire de la pub. Mais voilà. Sans caoutchouc, ça ne sert à rien.
Oui, comme on garde un pot de cornichon, par exemple, et on peut s'en servir.
Tout à fait. Donc, ça vous laissez poser pendant 48 heures. Si vous l'oubliez au-delà de 48 heures, ce n'est pas grave. Ce n'est pas bien grave. Plus ça va être macéré, on va dire, mieux ça sera parce que les graines vont se ramollir. Et puis, bah, au bout de 48 heures, on va verser le vinaigre de cidre dans une casserole et on va laisser bouillir le vinaigre pour éliminer l'alcool. Donc, on va laisser bouillir ce vinaigre de cidre pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va égoutter les graines et puis on va les verser dans la casserole et avec le vinaigre, et on va les faire cuire pendant 10 minutes.
Donc c'est 10 plus 10 ou c'est dans les mêmes 10 minutes ?
Non, c'est 10. Donc on fait bouillir 10 minutes, pendant ce temps on égoutte les graines, c'est ce que j'ai dit, égoutte, et une fois qu'elles sont égouttées et que les 10 minutes sont passées, on les verse dans la casserole, et on les fait cuire pendant 10 minutes. Et puis à nouveau, une fois que les 10 minutes sont passées, donc là on est à 20 minutes, on va bien égoutter les graines et puis on va mettre ces graines dans un blender ou un mixeur, hein, tout simplement.
D'accord.
Un blender ou un mixeur, et le mixeur, faut vraiment qu'il mixe vraiment. Parce que c'est vraiment le mixage qui va faire cette texture. Moi j'ai essayé plusieurs techniques et c'est vraiment le blender, le mixeur,
le mieux.
Donc une fois mixé, on va avoir une pâte. Mais vraiment, alors vous allez voir, hein, au départ, vous allez avoir des petites graines qui vont se refaire. Il faut vraiment que tout soit mixé. C'est pour ça que le blender, comme il a une forme un petit peu, pas ovale, on dit incurvé. En entonnoir,
ouais.
Voilà. Il a une forme un petit peu en entonnoir, ça veut dire que à chaque fois que ça va mixer, les résidus vont s'écouler et vont être mixés. C'est pour ça que c'est meilleur un blender. Donc on mixe bien, et puis pour obtenir une pâte, une fois qu'on a cette pâte, on va ajouter le curcuma, on va remixer de nouveau, et là on va verser dans les pots qui ferment. Donc, pot à confiture. D'accord ? Et ça, vous allez pouvoir le garder pendant un mois. Alors, pour le goût, c'est de la moutarde de Dijon. Mm-hmm. Donc, vous réduisez de moitié vos doses. Parce que c'est vraiment de la moutarde très, très fort. Hein, puisqu'on est quand même avec le vinaigre, on a gardé l'acidité du vinaigre et on est dans de la graine de moutarde quand même, hein, donc on n'a pas fait de rajout pour éviter que la moutarde soit moins forte, voyez.
D'accord.
Donc là on est vraiment dans la pure moutarde et donc vous allez pouvoir la garder pendant un mois dans un endroit frais et humide.
Pas au frigo.
Non, voilà, tu peux la garder au frigo. Pas
oui,
de problème. Oui, au frigo, c'est possible. Moi, perso, je la mets au frigo, mais j'en ai fait un deuxième pot et je l'ai mis dans ma buanderie. Ça me va bien. Quand j'y penserai, quand j'en aurai plus, je pourrai la prendre, puisque apparemment, la pénurie risque de continuer. Enfin, je ne veux pas foutre le souk, mais voilà. Donc, alors, avant de la déguster, ce qui est bien, c'est de la laisser un petit peu reposer. Vous la laissez reposer quelques jours, ça suffit. Mais vraiment, là, vous avez de la moutarde de Dijon, qui n'est pas faite à Dijon, qui sera faite à Saint-Try, mais de la vraie moutarde. Voilà. C'est encore une recette facile, rapide, délicieuse, et puis on en a l'utilité tout le temps. Et puis avec une viande rouge, Hein, une petite moutarde bien forte, ça relève le goût de la viande, ça picote dans les papilles. Bon, bah écoutez,
alors, j'ai une petite question quand même, parce que les gens vont se dire, ok, c'est bien joli, super, on va le faire, mais où trouve-t-on des graines de moutarde ?
Je l'ai dit tout à l'heure, vous les trouvez dans les épiceries fines, dans les magasins bio.
Et ça, il n'y a pas de pénurie là-dessus ?
Non.
Ok.
Non. Enfin, moi, j'en ai trouvé. Je ne vais pas nommer le magasin, mais j'en ai trouvé.
D'accord.
Et en grande surface, on en trouverait. Maintenant, il faut...
En grande surface, on en trouve ?
Oui.
Ah ouais ?
Oui, oui, dans certaines grandes surfaces, on peut trouver des graines de moutarde.
D'accord.
Alors, prenez les bio, c'est mieux. Mais bon, franchement, voilà. Enfin bon, moi, je prends ce que je trouve. Que ce soit bio ou pas, je prends ce que je trouve. Hein, quand j'ai besoin de moutarde, voilà. Et le curcuma, bah, c'est pareil. Hein, le curcuma, avant, personne ne connaissait. On dira une histoire sur le curcuma plus tard. Mais le curcuma, peu de gens le connaissaient. Et pourtant, c'est une épice qui est connue depuis la nuit des temps. Et c'est une fleur. J'en ai dans mon jardin, d'ailleurs. Ça sera une... Peut-être qu'un jour, je vous mettrai une photo de curcuma de mon jardin. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de notre émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour, encore avec des recettes délicieuses, rapides, faciles à préparer et pour préparer tous en famille ou entre amis, à partager. Hein, c'est ça aussi la cuisine, c'est partager des moments de bonheur. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon appétit. On vous embrasse tous.
Ouais.
Et puis surtout, prenez soin de vous. Bonne soirée.
Bonsoir.